Voici une question qui est bien d'actualité aujourd'hui. Y a-t-il des circonstances où Dieu autorise le divorce? Nous allons recevoir une réponse très claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Ça fait des milliers d'années que la Bible est écrite, et là encore, la réponse à toutes nos questions. C'est pas extraordinaire, ça? Voici quelques questions qui méritent notre attention. La Bible dit-elle qu'il y a toujours du péché derrière le divorce? Est-ce que le divorce fait partie du plan original de Dieu? Pourquoi Moïse a-t-il autorisé le divorce? Est-ce que Dieu permet le divorce? Est-ce une bonne chose de ne pas se marier? Devons-nous présenter l'Évangile aux enfants? Est-ce que les enfants qui meurent très jeunes sont sauvés? Je suis certaine que vous avez hâte d'entendre les réponses que donne la Bible à toutes ces questions. Le pasteur Régent Joly va nous les communiquer dans quelques instants. Demandons à Dieu qu'il nous dispose à saisir et à pratiquer ce qu'il va nous dire. Prions. Oui, Seigneur, dispose nos cœurs. Nos cœurs sont naturellement portés à s'égarer loin de toi, mais on veut être près de toi pour recevoir ce bon enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. On s'attend à toi, Seigneur. Enseigne-nous. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Mes amis, aujourd'hui, nous étudions le 19e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Ce chapitre est très important. Les chapitres que nous étudions sont remplis de précieuses vérités. En fait, je trouve même difficile de me restreindre à un chapitre par émission, car ils sont très riches en perles et en bijoux spirituels. Dans ce chapitre, nous allons voir que Jésus revient en Judée. Il va expliquer les normes de Dieu au sujet du mariage, ainsi que la seule raison permise pour divorcer. Peut-être à ce point vous aimeriez appeler un ou une amie avec qui vous avez discuté du divorce et l'inviter à écouter l'émission. Sinon, l'émission est disponible sur notre site web. Ensuite, le Seigneur va bénir des enfants et rencontrer un jeune homme riche. Et toujours dans le cadre de ce chapitre, il va montrer aux apôtres leur position dans leur royaume à venir. Il est fort probable que nous n'aurons pas le temps de couvrir tout ce chapitre aujourd'hui. Maintenant, notre attention est portée sur la géographie de la Palestine. Notez comment le chapitre débute. Lecture du chapitre 19, verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Avez-vous remarqué les déplacements de Jésus? Il est parti de Césarée de Philippe et il a annoncé qu'il allait à Jérusalem pour y être crucifié. Il est descendu en Galilée, dans la région de Capernaum et de la mer de Galilée. Il a visité toutes les régions sur le bord de la mer qu'il a traversées pour aller à Gadara. Maintenant, il quitte la Galilée pour se rendre sur la côte de la Judée au-delà du Jourdain, c'est-à-dire à l'est du Jourdain. Verset 2. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. J'aimerais faire le lien entre deux mots, foule et guérir. Je désire revenir sur le sujet une fois de plus. Ce n'est pas une ou deux personnes qui furent guéries, mais toute une foule. Je me rends compte de cela de plus en plus alors que j'étudie le texte biblique. Mes amis, si l'un d'entre vous dit avoir le don de guérir, passez donc faire un tour à l'hôpital et videz-le de ses patients. Cela serait vraiment une grande aide pour nos gouvernements. Lorsque Jésus passait dans une ville, il guérissait tous les malades qu'on lui amenait, tous ceux qui désiraient être guéris. une multitude de personnes furent guéries. Maintenant, au verset 3, nous voyons l'élite religieuse qui aborde de nouveau Jésus. Cette fois-ci, il le questionne au sujet du divorce. Jésus explique les normes divines pour le mariage et le divorce. Lisons ensemble, verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il désirait le prendre en faute comme vous le voyez. Il lui pose une question qui encore aujourd'hui nous trouvons difficile de répondre. Donc, l'élite religieuse lui pose une question au sujet du divorce. Cette question est encore d'actualité aujourd'hui. Avant de discuter la question, remarquons une chose. Dieu a donné certaines lois pour le bien de l'humanité. Par exemple, il a institué le mariage pour le bien des familles et la protection des foyers. Le mariage se veut une bénédiction pour l'humanité, que les gens soient croyants ou incroyants. Il a institué la peine capitale afin de protéger les nations, afin de protéger la vie des citoyens. Il a aussi ordonné une journée de repos, un sabbat, pour le bien des individus, afin qu'ils puissent se reposer une fois par semaine. Ce sont des lois générales qu'il a données à l'humanité entière. Plus tard, il les a données à son peuple, spécifiquement. Le sabbat fut donné à la nation d'Israël, la peine capitale est donnée à tous les pays, là où il y a un gouvernement, cette loi devrait être appliquée. Finalement, il y a le mariage pour tous les foyers. Nous avons donc cette question au sujet du mariage. Nous l'examinons dans le contexte plus restreint de la nation d'Israël. Aujourd'hui, nous allons l'examiner dans le contexte des chrétiens contemporains. Donc, les pharisiens ont posé cette question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Cette question était discutée à l'époque. Poursuivons notre lecture, verset 4. Il répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Jésus ramène les pharisiens au moment de la création, où Dieu présenta l'idéal du mariage. Il nous ramène à Deutéronome, chapitre 24, verset 1er. La loi mosaïque permettait le divorce. Écoutez bien. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et, après la lui avoir remise en main, il la renverra à sa maison. Selon la loi mosaïque, un divorce n'était pas aussi sérieux qu'un mariage à une étrangère. Par exemple, si la fille d'un sacrificateur épousait un étranger, elle était exclue de l'assemblée d'Israël. Avec le temps, la loi fut interprétée de façon à autoriser le divorce pour n'importe quelle peccadille, comme brûler du pain. Donc, ce sujet était beaucoup discuté à l'époque de Jésus. Versets 4 et 5. Il répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Nous voyons ici la situation idéale, désirée par Dieu. Jésus ramène ses auditeurs au plan de Dieu avant que le péché ternisse la race humaine. Le divorce ne faisait pas partie du plan original de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché n'en faisait pas partie. Le divorce est toujours une conséquence du péché. Quoi que vous pensiez, il y a du péché derrière tout divorce. Afin de répondre à la question, Jésus remonte au plan original de Dieu. Versets 6 et 7. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Nous avons lu le premier verset du chapitre 24 de Deutéronome à ce sujet. Pour en savoir davantage, Vous devriez lire les 4 premiers versets du chapitre, puisqu'ils traitent de ce sujet selon la loi mosaïque. Pourquoi Moïse a-t-il autorisé le divorce? Poursuivons notre lecture, verset 8. Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Moïse avait une raison d'autoriser le divorce. Laquelle? La dureté du cœur des Israélites. Le mariage, la relation humaine la plus douce et la plus tendre, fut donnée à l'humanité. Il n'y a rien comme cette relation. Le mariage devait illustrer la relation entre Christ et son Église. Seulement les croyants ont la possibilité de vivre une relation aussi profonde. Cependant, lorsqu'ils échouent et que l'amertume et l'endurcissement du cœur entrent en jeu, le mariage devient une imposture et une parodie du véritable mariage. Mes amis, un mariage se fait selon Dieu ou selon l'enfer. À vous de décider. Il n'y a pas d'autres options. S'il est fait selon l'enfer, il est voué à l'échec en partant. Même les chrétiens découvrent qu'un mariage peut devenir très pénible. Maintenant, le Seigneur va répondre à la question. Dieu a permis le divorce à cause de la dureté du cœur humain. Dieu est très miséricordieux envers nous, mais son idée du mariage idéal ne comprend jamais le divorce. Je reconnais que le divorce est très accepté dans notre culture. De nombreuses personnes divorcées nous écoutent, probablement présentement. Cependant, il y a toujours du péché derrière un divorce, car nous sommes tous pécheurs. Dieu pardonne aux assassins, et il pardonne aussi aux divorcés. Leur péché n'est pas pire que les autres péchés. Cependant, nous devons reconnaître que le divorce est une conséquence du péché. Maintenant, le Seigneur énonce quelque chose de nouveau. Verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. L'adultère brise la relation du mariage et fournit la seule raison de divorce. Maintenant, dans notre culture où le divorce est populaire, la Bible le permet seulement en cas d'adultère. Quelqu'un peut présenter le cas d'une pauvre femme chrétienne qui a épousé un alcoolique, ou encore un chrétien fidèle qui a une incroyante comme épouse. Qu'en pensez? Des croyants peuvent se séparer pour plusieurs raisons, mais le divorce est autorisé seulement en cas d'adultère. Un jour, une femme vint voir un pasteur. Elle expliqua que son mari gaspillait l'argent du couple. Il était un alcoolique et un joueur pathologique. « Le seul moyen que j'ai de protéger mes deux garçons est de divorcer, afin de leur assurer un avenir. » La dame demanda au pasteur si elle devait divorcer. Si elle ne le faisait pas, leur avenir était fortement compromis. Le pasteur lui expliqua que parce qu'elle était déjà séparée, elle pouvait demeurer dans cet état, mais qu'elle ne pouvait pas poursuivre dans la voie du divorce. Certains vont dire que cela est trop sévère, mes amis. Je n'ai pas inventé cela. C'est ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu. C'est la chose que Dieu veut que nous fassions dans ce genre de situation. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Le divorce fut autorisé afin de permettre aux parties innocentes de se remarier. Cette règle s'applique seulement aux croyants, aux chrétiens nés de nouveau. Dieu ne gère pas la vie des incroyants. Ceux-ci doivent d'abord se repentir et venir au pied de la croix pour obtenir le pardon de leurs péchés. L'incroyant doit venir à Christ pour discuter ou régler la question du divorce. L'individu qui n'a pas accepté Christ est perdu, qu'il soit marié, divorcé ou célibataire. Ce qu'il pense du divorce n'a pas d'importance tant qu'il n'accepte pas Jésus-Christ comme sauveur personnel. Ce qu'il faut savoir, Dieu permet aux chrétiens de divorcer pour une seule unique raison, l'adultère. Supposons une dame croyante dont le mari a obtenu un divorce, ou dont un croyant dont l'épouse a obtenu un divorce pour une autre raison que celle de l'adultère. Qu'en est-il du parti innocent? S'il y a eu adultère, et c'est plus souvent le cas, alors le parti innocent est libre de se remarier. C'est la pensée de Christ dans ce cas particulier. Poursuivons notre étude, car il y a un autre point important. Verset 10. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » En fait, les disciples affirment qu'il est préférable de demeurer célibataire. Il n'y a aucun doute que quelqu'un qui reste célibataire s'épargne bien des ennuis. Verset 11. Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Ce verset est très important, surtout de nos jours. Jésus établit un grand principe ici. Même l'Église catholique éprouve des problèmes avec ce verset. S'ils lisaient ce verset, ils y découvriraient un grand principe énoncé par Dieu. Poursuivons la lecture et lisons le verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Chers amis, le mot « eunuque » est peu utilisé aujourd'hui dans notre langage. Il veut tout simplement dire l'état de quelqu'un qui vit le célibat. Donc, certains hommes et certaines femmes n'éprouvent pas le besoin de se marier. Ils sont heureux de vivre seuls. Qu'avait dit une dame célibataire il y a plusieurs années, lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle ne se marie pas? Elle a répondu qu'elle n'avait pas besoin de se marier. Elle avait un poêle qui produisait de la fumée. Elle avait un chien qui jappait. Elle avait un perroquet qui disait des gros mots, donc elle n'avait pas besoin d'un homme dans la maison. C'est très bien ainsi. Il y a de nombreuses personnes comme elle aujourd'hui. Cependant, le célibat n'est pas pour tous. Ils le sont à cause d'une loi ou d'un règlement qui leur interdit de se marier, pour certains. Pour d'autres, personne n'a le droit de faire une telle loi. Mais si c'est fait, alors les gens sont des eunuques. Une femme qui est allée en mission n'avait aucune chance de se trouver un mari sur le champ missionnaire dans lequel elle se trouvait. Elle fut missionnaire de nombreuses années et elle ne s'est jamais mariée. Elle a dit qu'elle avait réfléchi à la question et qu'elle était disposée à faire un tel sacrifice. Il n'y a pas de loi à ce sujet aujourd'hui. Quelqu'un peut demander si un prédicateur ou un prêtre devrait se marier. Dieu a annoncé un principe pour répondre à cette question. Il a dit que c'est à l'individu de décider. Chacun doit décider pour soi. Certains devraient se marier, d'autres devraient éviter de le faire. Il y a tellement d'éléments qui se rapportent à cette question que j'aimerais que nous ayons plus de temps. Mais j'ai hâte de passer au point suivant. Voici quelque chose de merveilleux. Lisons les versets 13 à 15. Alors, on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur impose les mains, et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus leur dit, « Laissez les petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, et il partit de là. Nous avons déjà traité le salut des enfants, il y a quelques jours. Nous avons de nouveau un passage réconfortant pour les enfants qui meurent très jeunes. Ils sont sauvés. En fait, aucun enfant ne va rejeter Jésus s'il lui est présenté selon la Bible. Cela est vrai, et c'est pourquoi qu'il faut transmettre le message de l'Évangile aux enfants. Quelqu'un va me dire, alors, tout le monde peut être sauvé si nous parlons aux enfants. Non, car plus tard, ils atteignent l'âge de raison. C'est pourquoi il faut semer l'Évangile dans le cœur des enfants dès leur bas âge. Lorsqu'ils atteindront l'âge de raison, ils choisiront de suivre Christ. c'est important que vous donniez un suivi à la profession de foi d'un enfant très jeune. C'est passé l'âge de raison que se fait une décision pour Christ. Vous allez peut-être demander quel est l'âge de raison. Je l'ignore. Est-ce que les enfants sont redevables lorsqu'ils ont entendu l'Évangile? Je ne sais pas. L'important, c'est de présenter l'Évangile aux enfants, pas de discuter à savoir si on devrait le faire. Présentez-leur l'Évangile sans omettre de faire un suivi lorsqu'ils seront en âge de rendre des comptes. Vous devez vous assurer de la sincérité de leur profession de foi. Ce qui est intéressant, c'est qu'immédiatement après avoir donné son enseignement sur le divorce, Jésus-Christ a porté son attention vers les enfants. Ce qui est important dans toute l'histoire de divorce, ce sont les enfants. Un jour, une femme est venue me voir, et elle a dit qu'elle n'aimait plus son mari. Elle a rappelé qu'il avait dit qu'il n'y avait plus de relation, ou il n'y avait plus d'amour. Cette femme désirait divorcer. D'accord qu'il n'y a plus de relation s'il n'y a plus d'amour, mais ce n'est pas une raison légitime de divorcer, mes amis. Je lui demanda si elle aimait ses enfants, et elle répondit oui. Elle a demandé quel était le rapport. Je lui ai dit de demeurer avec son mari aussi longtemps qu'elle le pouvait si elle aimait ses enfants. Mais elle a dit de ne plus aimer son mari. Je lui ai dit que cela n'était pas la question. Mais aimait-elle ses enfants? Mes amis, n'importe quel couple, surtout les couples chrétiens, devraient y réfléchir longuement avant de divorcer s'ils ont des enfants. Chers amis, la parole de Dieu nous exhorte, nous encourage à aimer les nôtres comme si le Seigneur le faisait à notre place. Lisons dans la lettre de Paul aux Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 33. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Et je rajouterai un autre texte biblique, cette fois dans la lettre de Paul à Timothée, sa première lettre de Paul à Timothée, chapitre 5, et le verset 8. Nous lisons. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Oui, chers amis, l'amour de Dieu, cet amour divin, devrait se manifester premièrement dans nos foyers, dans nos relations de couple et dans nos relations familiales. Voilà un témoignage puissant et efficace pour notre société d'aujourd'hui. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Matthieu chapitre 19 verset 14 jusqu'à chapitre 20 verset 23.
Merci Régent. Je pense qu'on a réellement eu un enseignement clair concernant le divorce aujourd'hui. Bien sûr, étant moi-même célibataire, ce qui m'a le plus intéressé aujourd'hui, c'est la question du célibat. Régent a parlé des hommes et des femmes qui n'éprouvent pas le besoin de se marier. Eh bien, j'en fais partie. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les hommes. Ce n'est pas non plus dans le but de faire un grand sacrifice. Laissez-moi vous raconter mon vécu à ce sujet. Ceux qui connaissent mon témoignage savent qu'avant de devenir une enfant de Dieu, avant d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, j'avais un amant, un homme marié. Et j'en avais eu d'autres avant lui. En devenant chrétienne, j'ai immédiatement réalisé que c'était péché d'avoir le mari d'une autre femme. J'ai tout de suite laissé mon amant. Maintenant, en recevant le don gratuit de la vie éternelle, j'ai dit au Seigneur, « Prends tout mon cœur. » Et je suis convaincue qu'il l'a fait. Donc, comme je disais, j'ai quitté mon amant. Je me suis mise à annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce à tous ceux qui voulaient m'entendre. Et je me suis impliquée autant que je le pouvais dans mon église locale. Dieu occupait tout mon temps et je me réjouissais d'avoir cette entière liberté de partir de chez moi, de revenir quand j'avais terminé ce que j'étais allé faire. J'avais pas de compte à rendre à personne d'autre qu'à Dieu. Et la vie a continué jusqu'à aujourd'hui, 26 ans plus tard. Et je suis toujours heureuse de mon état de célibataire, d'autant plus que je suis à temps plein maintenant dans des ministères qui occupent à peu près tout mon temps. Je reconnais que c'est une grâce que Dieu m'accorde d'être heureuse dans le célibat. Je pense réellement que le mariage est souhaitable pour la majorité des gens. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a institué, d'ailleurs. Mais je pense à l'apôtre Paul et je me dis que je suis probablement comme lui. Il dit dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 8, « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. » On sait que Paul était lui-même célibataire. Puis un peu plus loin, au verset 34, il dit, « Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. » Alors, je suis bien heureuse d'avoir tout ce temps à ma disposition pour m'occuper des choses du Seigneur. Il y a d'abondantes joies dans tout ça. Mais je ne suis pas allée jusqu'à faire un vœu de célibat. Mais si le Seigneur juge bon que je demeure dans l'état où je suis jusqu'à son retour, j'en serai bien heureuse. Paul a aussi dit au verset 38 que celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Alors moi, je me sens très, très bien dans le célibat. Je suis heureuse de ce que Dieu me donne, de ce qu'il me confie, et de toute l'aide et aussi de toute l'affection qu'il me donne de la part de mes frères et sœurs en Jésus-Christ et des gens que je connais, de ma famille aussi. Et je me dis que plus tard, si Dieu a d'autres vues pour moi, il va me le montrer. Mais j'encourage ceux qui sont célibataires à ne pas s'empresser de se marier. Attendez le temps de Dieu. Parce qu'on peut faire une erreur aussi en cherchant trop, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on se sent seul. On peut aussi faire le choix d'un mauvais conjoint. Et ce ne serait pas une bonne chose non plus. Alors je vous encourage à rester célibataire autant, aussi longtemps que Dieu va vouloir que vous le soyez. Dieu connaît tout ce dont on a besoin.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.